ça devait être prémédité, parce que dès l'âge de 14 ans, j'allais travailler à la boulangerie de mon village, à vélo du coup, aller-retour à vélo. Et puis après, les études ont fait que j'ai viré sur la restauration, toujours avec le contact de la clientèle. Et puis, le fait a fait que j'ai rencontré un homme qui est mon mari aujourd'hui et qui est boulanger-pâtissier. Donc, j'ai laissé la restauration pour partir avec lui. Et puis, une aventure nous a tenté d'ouvrir un magasin. Donc, nous avons ouvert un premier magasin en 89, celui-ci, nous l'avons vendu. Et ensuite, nous sommes repartis sur un deuxième magasin qui, en fait, n'était pas du tout destiné à être à Villedômé à la base. Nous devions reprendre l'affaire où mon mari était, ouvrier pâtissier sur Granville, dans la Manche. Et puis, en fait, son patron qui était là-bas à l'époque n'a pas voulu vendre tout de suite parce qu'il s'est trompé dans ses années de retraite. Donc, nous avons été obligés d'attendre pendant 1 an et demi, 2 ans. Et puis, on s'est dit, on va pas attendre, on va essayer de trouver autre chose. Et puis, un jour, tout bonnement, le directeur de la banque nous a dit qu'il y avait une affaire sur Villedômé qui était fermée, qui était en liquidation judiciaire.
Une boulangerie déjà ?
Oui, c'était une boulangerie, mais en fait, elle était fermée depuis plusieurs mois, qui était en liquidation judiciaire. Et il nous a proposé tout bonnement, comme ça, si ça pouvait nous intéresser. Donc, c'était pas du tout la Normandie, finalement, puisqu'on se retrouve à Villedômé. Et puis, nous avons fait les démarches nécessaires pour arriver à voir et faire présenter notre projet. Et puis, à l'époque, nous étions 9 artisans à être sur l'affaire. Alors, pourquoi on a été choisis, nous ? C'est qu'on avait... On était les seuls sur les 9, en fait, à avoir eu l'expérience déjà d'avoir eu un commerce. Est-ce que ça a été le hasard ou pas ? Je ne sais pas. Parce que finalement, avec le recul, ils nous ont bien dit que ce n'était pas nous qui avions mis... la plus grosse des sommes, mais par notre expérience. Et puis, on est parti. Et puis, en fait, on s'était dit, ce sera du provisoire en attendant de trouver autre chose.
Et finalement, non, 25 ans de carrière ou d'expérience, je ne sais pas ce qu'on peut dire, parce que ça date de 1993, c'est ça. Alors, ce qui vous amène aussi dans le studio de Radio Campus Tours, c'est que vous participez encore, parce que ce n'est pas terminé, à la galette solidaire. Qui est, on l'évoquera tout à l'heure en deuxième partie d'émission, mais en tout cas, vous reversez une partie des galettes de l'Épiphanie vendues. Oui, effectivement, une contribution financière au Secours Populaire. On y reviendra en deuxième partie d'émission. Est-ce qu'on peut évoquer maintenant votre métier de boulanger ? Parce que c'est finalement ce qui fait... comment dire, c'est presque un cliché français, la baguette, le pain, etc. Et le métier de boulanger, on a tendance à le mettre un peu de côté. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce métier qui est aussi atypique par les horaires ?
Il est vrai que par ça. Il est vrai que les horaires sont devenus de plus en plus... plus souple que ce que ça a été quand même au départ du métier de boulanger si on revient dans les années Rému. Mais sinon, y a quand même beaucoup de matériel aujourd'hui qui permet quand même d'avoir une vie de famille, d'avoir aussi un confort pour pouvoir dormir quand même plus facilement qu'autrefois avec les chambres de fermentation. Donc ça nous permet quand même d'avoir une qualité de vie autre. Après, le pain ne lui empêche pas la qualité. Je veux dire, si au départ, vous travaillez avec une bonne farine, vous travaillez aussi avec du matériel, vous savez le gérer, il n'y a pas de raison à avoir une mauvaise qualité derrière. Il faut respecter le temps de pousse, il faut lui laisser le temps au temps au pain. De toute façon, ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça c'est sûr. Et puis, quand on aime son métier, je pense que la pâte, après, il n'y a plus besoin non plus, je vois comment Marie fait, il n'y a plus besoin de tout contrôler les températures, il voit au toucher de sa pâte comment ça se passe.
C'est l'expérience finalement.
Oui, alors, c'est ça.
Justement, 25 ans d'expérience, est-ce que vous avez remarqué, vous venez de le dire, notamment au niveau technologique, en 25 ans, un changement radical entre 1993 et aujourd'hui, est-ce que c'était plus difficile avant ? C'était un métier qui prenait plus de temps ?
Oui, bien sûr, avant ça prenait beaucoup plus de temps. Aujourd'hui, encore une fois, on a le froid qui permet de réguler au niveau du pain, de le faire pousser moins vite. Plus vite, non, mais c'est quand même plus adapté que ce que ça l'était quand on a commencé, évidemment. c'est plus facile maintenant. Bon, ça reste aussi un métier difficile avec des horaires quand même qui sont contraignantes, d'où aussi la difficulté de beaucoup de nos collègues et nous de trouver du personnel, aussi bien que ce soit à la fabrication qu'à la vente. Évidemment, commencer à 3h30, 4h, et puis terminer avec des horaires qui n'en finissent pas selon les commandes qu'on a, c'est tout ce travail qui est là, quoi. En plus, nous, on est dans un petit village rural, donc il est vrai qu'on n'est que tous les deux à travailler, avec une jeune fille qui est au magasin le dimanche matin.
Donc vous êtes trois, c'est ça ?
Une jeune fille qui est au magasin le dimanche matin, on a un boulanger qui est là le dimanche ici avec nous.
En renfort, en fait, ouais.
Voilà, et on a une dame chauffeur-livreur pour les tournées, les livraisons. Mais il y a des périodes comme celle qu'on vient de passer, là, Noël, oui. C'est difficile.
Noël, l'épiphanie, c'est finalement le gros moment de l'année, en partie.
Comme diraient certaines personnes dans notre métier, faut pas se le cacher, Noël et l'épiphanie, pour nous, ce sont nos 13e mois, quoi. Voilà, c'est ce qu'on dit dans notre jargon à nous.
13e mois du boulanger.
C'est
est-ce,
ça.
Est-ce que d'ailleurs, le fait d'officier dans un petit village, c'est pas un peu... compliqué dans le sens où déjà la clientèle manque par rapport à une ville. Pareil au niveau de la concurrence, comment ça se passe dans un petit village ? Est-ce que c'est pas un peu plus délicat que dans une plus grande ville ?
Non, parce que personnellement, je dirais qu'on fait aussi, on vient pas qu'à être boulanger maintenant. On est aussi un petit peu assistante sociale, si je peux dire. On aide les gens en faisant les tournées. Déjà, on leur apporte un service. Si malheureusement le papy ou la mamie n'est pas bien, on est aussi là pour venir à leur secours.
Parce que faire les tournées, est-ce que vous pouvez définir ce que ça veut dire précisément ?
Alors faire les tournées, en fait, son travail à un chauffeur livreur, à Sylvie, consiste à, elle part le matin avec la voiture remplie de pain, de viennoiserie, et donc elle fait porte à porte avec un circuit que nous avons défini, et puis c'est aussi la visite comme le facteur, comme le boulanger, d'apporter le pain, d'avoir une visite, et papy mamie aujourd'hui pour certains dans le petit village en
c'est
recul,
c'est le lien social,
voilà, c'est ça, et puis c'est un petit bonjour, c'est un petit réconfort. S'ils vont pas bien, on discute 5 minutes avec eux, on a l'impression qu'on leur a donné la joie de la journée, enfin c'est agréable, quoi.
Ça, c'est quelque chose qui est voué à disparaître, les tournées comme ça.
Malheureusement, depuis 25 ans que nous sommes à Villedômé, forcément, on a quand même une partie de nos personnes que nous avions comme clients qui sont décédées. Et puis, la nouvelle génération qui arrive, rachète les maisons, n'ont pas eu cette habitude à ce qu'on leur mette le pain à leur domicile. C'est complètement différent. Pour certaines personnes, des jeunes qui ont été élevés en campagne, ont cette habitude-là, mais c'est pas partout. Et malheureusement, c'est quelque chose qui va se perdre au fil du temps, quoi.
Est-ce que par rapport aux grandes surfaces, notamment, il n'y a pas une concurrence aussi déloyale pour ces petites boulangeries qui essayent d'exister dans les petits villages ? On parle souvent du pain maintenant industriel, etc. Et aussi les grandes surfaces qui se mettent à faire beaucoup de pain. Est-ce que c'est pas... un peu on parle souvent d'Amazon pour les libraires, mais est-ce que c'est pas un peu l'Amazon du boulanger des grandes surfaces ?
Je dirais que c'est quand même au client aussi de faire son choix. À un moment donné, il faut peut-être pas toujours voir que le prix, mais la qualité. Et on retrouve quand même quelque chose dans nos petits commerces, nous, de proximité. Ou par exemple comme là pour Noël, où j'ai des gens qui se retrouvent avec des moyens moyens et qui préfèrent avoir du bon chocolat maison plutôt que de s'acheter quelque chose en grande surface, effectivement moins cher, mais préfèrent avoir peu. Mais bon, on a le cas exactement sur la galette des rois aussi, sur la pâtisserie, où les gens achètent pas souvent, mais pour le coup, quand ils achètent, ils veulent quelque chose de bon, quoi.
Alors, faut le préciser, effectivement, vous faites pas que du pain, vous faites aussi des pâtisseries, du chocolat, vous venez de dire, c'est
oui,
ça ?
Oui, chocolat maison également,
ouais. Oui, donc finalement, le métier de boulanger aussi, il s'est un peu élargi, notamment à la pâtisserie.
Mon mari, au départ, n'était que pâtissier, chocolatier, confiseur, et le pain, il l'a pris, sur le tas, quand on s'est installé.
Alors justement, vous avez parlé de qualité, ce qui faisait aussi la différence par rapport aux grandes surfaces en termes de pain. Est-ce que vous pouvez nous donner la recette et les ingrédients pour réussir un bon pain ? Qu'est-ce qui fait un bon pain ?
Ben déjà, le boulanger. C'est quand même très important.
Et le savoir-faire, évidemment, voilà. J'imagine.
Et puis, je veux dire, vous avez multitude de farines. Donc après, nous, on travaille de la farine Label Rouge. Donc après, chacun fait comme il a envie. Nous, c'est notre choix d'avoir de la qualité. Après, il n'y a pas à se cacher. Hein, la farine, de l'eau, de l'améliorant et puis du sel, bien sûr. Quand le boulanger n'arrive pas à l'oublier certaines fois, ça leur arrive.
Ça sent le vécu, ça.
Ouais, c'est ça. 25 ans, forcément, il y a toujours des petites bêtises qui arrivent.
Ah bah ça, en 25 ans, oui, il y a le temps, effectivement.
Et puis, après, effectivement, il y a son savoir-faire qui est là et qui donne une bonne qualité. C'est comme tout. Quand vous faites une recette chez vous, à la maison, si vous la faites bien de A à Z, vous avez un bon résultat. Si vous bâclez, vous pouvez pas avoir un bon résultat. On est dans le même contexte.
Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement, j'imagine que c'est complexe et puis c'est assez long aussi, mais les étapes, est-ce que vous pouvez nous parler de ces étapes pour la confection du pain? Parce que finalement, personne, en tout cas je parle en mon nom, peut-être au nom des auditeurs, personne n'a jamais vraiment fait de pain. Quelles sont les étapes pour faire du pain, justement?
Eh ben, écoutez,
Les différentes étapes,
on commence à faire un pétrin, tout simplement. On y met la farine, comme je disais, l'eau, l'améliorant, et puis le sel. On pétrit un certain temps, en première vitesse, deuxième vitesse. On laisse un peu la pâte se reposer dans le pétrin. Ensuite, cette pâte est mise pesée, mise en bac. Donc, selon le poids, si on fait des pains ou des baguettes, le poids est défini là. Ensuite, ces bacs à pâte, on les laisse reposer un petit peu. Ensuite, on les met en diviseuse. Donc, c'est-à-dire que c'est une machine, si vous voulez, comme si c'était un damier. Et vous renversez le bac à pâte dans cette diviseuse et par compression et avec la grille qui fait comme un damier qui vous découpe les morceaux,
pains.
Voilà, qui vous découpe soit en pois baguette, soit en pois pain. Suite à ça, nous les mettons à reposer dans le repose-pâton. Et de là, ces petits carrés de pâte sont pris et mis dans la façonneuse qui va vous donner la forme de la baguette, qui va les allonger. Et quand on prend ces baguettes ou ces pains, en fait, après, nous, on les pose sur une toile à pain, une couche, ça s'appelle, en fait. Et chaque baguette et chaque pain est mis dessus. Et c'est sur des toiles à pain qui, elles, sont posées sur une grille. Et cette grille, après, qui rentre en chambre de fermentation. Et de là, on lui fait sous son circuit, la chambre de fermentation, en lui demandant, par exemple, si mon mari se met à cuire à 4h30 le matin ou 5h, eh bien, on lui laisse tout ce temps pour que la pâte, elle pousse. Et donc, tout est programmé. Son four est programmé aussi. Donc, quand il descend le matin pour cuire, en fait, il n'a plus qu'à sortir ses grilles et à cuire son pain. Et tout le processus s'est fait dans la nuit. Et le matin, il n'y a plus qu'à cuire, quoi.
Voilà, et concrètement, on commence à quelle heure ? 2h du matin, quelque chose comme ça, avant,
non,
après ?
Disons que mon mari, moi, personnellement, commence à
3h30.
Alors, 3h30, il ne commence pas à cuire. Il a toutes ses baguettes de tradition à faire, tous ses pains spéciaux à faire, cuire sa viennoiserie vers 5h30. Et après, vers 5h30, 5h, il commence à cuire son pain.
Est-ce que c'est un métier qui, du coup, décale aussi la vie sociale plus largement? Parce que le fait d'avoir des horaires décalés de tous les autres métiers, finalement, ou quasiment tous, hein, évidemment, est-ce que ça pose pas un peu problème pour la vie sociale, tout simplement, avec les amis, les proches?
Disons qu'on s'est adapté depuis l'âge de 14 ans qu'il est dans le métier et moi aussi. Je pense qu'on se fait une vie effectivement par rapport à notre travail, les amis qui sont aussi dans la même optique que nous. Et c'est comme ça qu'on fait parce que forcément on est en décalé avec tout le monde, quoi.
Oui, puis c'est un rythme à prendre. On parle souvent de rythme, mais c'est vrai que j'imagine qu'au bout de 25 ans, vous l'avez pris.
Ah, complètement.
Enfin, espérons pour vous, en tout cas.
Oui, oui, il est complètement pris, bien sûr.
Je vous avais promis en antenne un petit quiz. Le quiz habituel, en fait, de sortez. Je mets le petit jingle et je vous pose quelques petites questions. Vous êtes prête ?
Prête.
Allez, c'est parti. Alors, c'est un quiz aujourd'hui qui est spécifique au métier de boulanger. Voilà, alors, bon, évidemment, il y a beaucoup de chiffres. Vous allez essayer de me donner les bonnes réponses. Première question, d'où vient le terme boulanger ? Est-ce que vous le savez ?
Bah, tout bonnement, même pas.
Non. Alors, le boulanger, en tout cas, le terme boulanger, est d'origine picarde. Et en fait, c'est apparu sous la forme de Boulangerius, ou Boulangerius en latin médiéval, et ça daterait de 1299. Et en fait, ça voulait dire celui qui fabrique les pains ronds. Voilà. Donc, origine picarde pour le terme, hein, je parle bien du terme boulanger. Évidemment, le métier existait bien avant 1299, mais en tout cas, le terme date environ de cette époque-là.
J'aurais au moins appris quelque chose.
Deuxième question. Est-ce que vous avez un ordre d'idée du nombre de boulangers en France ? Est-ce que vous pouvez me donner un chiffre ?
Je sais que sur le département de l'Indre-et-Loire, on est...
Ah, c'est la troisième question !
Ah ! Ça... Je vous ai devancé.
Ouais, vous m'avez devancé. Est-ce que vous savez, en France, après on parlera effectivement plus spécifiquement de l'Indre-et-Loire ?
Franchement, pareil. Aucune idée de savoir combien on peut être. Je sais que malheureusement... Il y en a beaucoup qui s'en vont.
De moins en moins, c'est vrai, on l'évoquera tout à l'heure, mais il y aurait à peu près 32 000 boulangers en France, ce qui correspond à peu près à un boulanger par commune. Hein, il y a à peu près 36 000 communes en France. Ça fait à peu près ça. De boulanger, hein, pas de boulangerie, ce qui est deux choses différentes. Il y a,
tout à fait.
Voilà, il peut y avoir, j'imagine, plusieurs boulangers par boulangerie, hein, évidemment.
Oui.
Voilà, c'est bon de le préciser. Alors du coup, troisième question, combien y a-t-il de boulangers en Indre-et-Loire ? Ah ben, vous m'aviez dit que vous saviez.
Je sais que...
Est-ce que vous avez un ordre d'idée ? En Indre-et-Loire, du coup, dans le département.
Même pas. On est quand même bien monté.
Ah, plus ? Oui, oui, un peu plus même.
Oh ouais, on doit être à peu près aux environs 200 peut-être, non ?
On est à 327. 327 boulangers.
J'en ai rayé beaucoup sur la liste, du coup.
En Indre-et-Loire, ça, c'est... On raye la concurrence, c'est normal, c'est... C'est l'esprit. Quatrième question. Est-ce que vous savez, ça c'est un chiffre assez dingue, combien de baguettes sont consommées en France toutes les secondes ?
Voilà,
ça c'est vrai que c'est des questions difficiles. Hein, mais
toutes les secondes ?
Je suis réputé pour poser des questions difficiles dans ce
quiz.
Ouais,
je vois bien là, c'est que des questions pièges.
Non, c'est pas des questions pièges, c'est des choses que voilà, qui sont...
statistiques.
Voilà, statistiques plutôt amusantes. Alors, je vais vous donner le chiffre. 320 baguettes sont consommées en France chaque seconde. 320, c'est assez énorme. Hein.
Tout à fait.
Et ce qui correspond à peu près une demi-baguette mangée par chaque Français par jour. Et chose intéressante, en 1915, donc il y a à peu près 100 ans, on en mangeait 5, enfin, plus de 5 à 6 fois plus, on mangeait 3 baguettes et demie par personne en France. Donc, comme quoi, on a largement diminué notre consommation de pain. Et ça, pour le coup, c'est un chiffre assez intéressant parce que vous, sur 25 ans d'expérience, est-ce que vous avez remarqué peut-être aussi un changement à ce niveau-là ? Est-ce que les gens consomment moins de pain ?
Oui, tout à fait. Il faut dire, bah, justement, comme on disait, beaucoup de personnes de la campagne, quand on faisait les tournées et choses comme ça, c'était beaucoup plus du pain. Et aujourd'hui, on est plus dans une vente baguette. Et il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas non plus toutes les baguettes de tradition que nous avons maintenant, avec tradition campagne, tradition céréale, tradition beaucoup de pains spéciaux également. Et avant, il était, quand on a commencé il y a 25 ans, effectivement, nous n'avions pas tout ce choix de panel de pains spéciaux et de baguettes de tradition. Donc forcément, ça diversifie sur autre chose et les gens en mangent effectivement moins que quand nous avions commencé. Oui, ça, on l'a bien constaté.
Et d'ailleurs, il y a un autre chiffre intéressant pardon, par rapport à ça. Depuis 1975, donc 1975-2015, en 40 ans, il y a 40% des boulangeries qui ont fermé. 40% des boulangeries, ça aussi, c'est un réel problème. Hein, et c'est peut-être lié aussi à l'essor du pain industriel.
Il y a bien sûr l'essor du pain industriel. Il n'y avait pas autant de grandes surfaces qui en faisaient. Et puis, on a toujours ce problème qui est là aussi de trouver du personnel. Et malheureusement, avec toutes les normes aussi qui sont demandées, les mises aux conformités, mises aux normes, et qui compliquent aussi la... Pour certaines personnes, comme là maintenant, par exemple, si on prend l'exemple de maintenant, au 1er janvier, nous avions l'obligation pour nos caisses enregistreuses, qui est quand même un coût. Mmh. Et beaucoup d'artisans arrivant à la fin de carrière ont préféré fermer leur magasin plutôt aussi que de s'investir dans plein de choses comme ceci.
Ça, c'est vrai que ça, les lois, ou en tout cas les règles qui concernent le métier de boulanger, ça a aussi un impact, c'est vrai, sur...
Tout à fait. C'est quand même un coût qui est assez important et tout le monde ne peut pas non plus le permettre.
Et alors, un dernier petit chiffre pour terminer avec ce quiz. Le secteur de la boulangerie-pâtisserie, là, donc, deux secteurs qui sont finalement liés, hein, intimement même peut-être, génère environ 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, selon les chiffres de l'INSEE, des chiffres qui datent de 2016. Donc, c'est aussi un secteur économique... Qui pèse en France, tout simplement, le pain et la boulangerie-pâtisserie. Bon, voilà, c'était le petit quiz de l'émission Sortez spéciale boulangerie. Est-ce qu'on peut évoquer maintenant la galette solidaire ? Qu'est-ce que c'est, la galette solidaire ? Vous avez été partenaire, et vous l'êtes toujours d'ailleurs, puisque ça terminera fin janvier. Et c'était pour l'épiphanie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistait cette galette solidaire ?
Alors en fait, la société Panessiel, avec qui je travaille depuis de très nombreuses années, qui ont un concept sur un packaging de... Ils procèdent avec les cardis de fidélité, les cartes de vœux, les fèves, les sacs, galettes, les couronnes. Et après, derrière, ils mettent en place des choses comme là, cette année, la galette solidaire. Et comme moi, étant donné que je travaille avec eux depuis de très nombreuses années, ils m'ont demandé si j'étais partante pour faire cette opération. Donc bien sûr, moi je leur ai dit oui, parce que déjà nos valeurs et nos traditions de la campagne nous ont été élevées, mon mari et moi, à toujours avoir cet esprit de partage. Quand il y en avait pour 4, il y en avait pour 6. Et aider toujours un petit peu plus les autres aussi, moi je trouve que c'est très bien de participer. Et quand ils m'ont proposé ça, j'ai dit ok, on y va, on fonce, et puis on est parti, et donc ça s'est bien lancé et on est en plein dedans.
Parce que la galette solidaire, ça consiste à reverser une partie du chiffre d'affaires de vos galettes pour l'épiphanie, c'est ça, au Secours Populaire.
Oui, en fait, il faut bien dire que ce n'est pas que sur la journée qui était de l'épiphanie, mais sur tout le mois de janvier.
Sur tout le mois de janvier.
En fait, sur toute la vente de nos galettes que nous allons faire du 1er janvier au 31 janvier, 50 centimes sera reversé au Secours Populaire.
Et alors, en fait, en lisant le communiqué de presse, je ne sais pas si vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça, c'est une pratique ancestrale qui s'appelle la part du pauvre. En fait, à l'époque, on réservait une part finalement aux plus démunis sur les galettes ou même sur les gâteaux, etc. à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est finalement remettre un peu cette part du pauvre à l'ordre du jour, en quelque sorte.
C'est complètement ça. Enfin, comme je disais tout à l'heure, quand il y en a pour 4, il y en a pour 6. Et on avait toujours l'habitude à l'époque de faire à manger toujours plus, en se disant peut-être que quelqu'un frappera à la porte et aura à manger. Et en fait, la part du pauvre, elle est là aussi. Et quelque part, effectivement, au jour d'aujourd'hui, en reversant ces contributions sur la galette, fait partir de se dire on a participé à la part du pauvre, effectivement, en leur donnant une petite chance pour pouvoir eux aussi manger et avoir quelque chose pour eux, quoi.
Et vous êtes la seule boulangerie d'Indre-et-Loire à participer à ce programme ?
Oui, tout à fait. Donc, tout à l'heure dans les quiz, je ne savais pas répondre, mais là, pour le coup, je vais savoir répondre.
Donc, la seule des 327 boulangeries d'Indre-et-Loire à participer à cette galette solidaire.
Oui, et apparemment, sur la France, nous sommes 80 boulangeries à avoir accepté cette opération.
Alors, vous l'avez dit, vous, c'est un peu dans votre tradition, en tout cas, tradition campagnarde, et puis aussi de tisser des liens avec les habitants, qui vous a motivé à faire
cette démarche. Moi, je trouve que dimanche, là, l'exemple a été super. Nous avons Fatia et Nadège, que je remercie d'ailleurs énormément de leur participation, qui sont venus 3 heures passer du temps avec nous et expliquer aux clients aussi qu'est-ce qu'était le Secours Populaire. mère.
Voilà, qui, elle, représentait le Secours Populaire.
Tout à fait, coup. Ouais, ces dames, et qui ont passé 3 heures au magasin avec nous. Dommage que la météo n'a pas été avec nous, parce que nous avions envisagé de se mettre dehors. Mais vu le temps qu'il faisait, on s'est concentré à l'intérieur du magasin. Et en fait, elles ont accueilli les clients aussi en leur expliquant ce que c'était, les actions qu'elles faisaient, ce qu'elles allaient faire aussi de cet argent. Donc non, ça a été vraiment un moment très convivial et les gens étaient très réceptifs.
Oui, parce que peut-être certains clients pensent que cette démarche est aussi une démarche marketing ou en tout cas de vente. Et c'est peut-être ce que ces dames leur ont expliqué, non ?
Non, les clients, moi je leur avais bien expliqué auparavant que nous allions voir ces dames qui allaient venir. On a eu la chance de passer aussi sur TV Tour qui a expliqué les choses. Vos collègues de France Bleu qui sont passés et qui nous avons passé un message aussi sur la radio dimanche matin. Et on a eu un retour aussi de personnes qui sont venues au magasin parce qu'ils nous ont entendu à la radio justement expliquant que 50 centimes étaient reversés pour le Secours Populaire et des gens sont venus spécialement pour donner. Et il faut dire aussi que certaines personnes ont aussi donné en plus dans les troncs qu'ils avaient mis à la disposition de la clientèle dans le magasin.